On en est au 5e épisode et vous êtes toujours là. Vous connaissez la règle des 5 rendez-vous ?
L'Enum, l'update, l'essentiel de la tech. Sur place ou à emporter.
La technologie avance, on vous aide à la rattraper. Bonjour ou bonsoir, c'est Julien et au sommaire de l'émission, Tesla passe au crash test, l'Apple Vision Pro fête son premier anniversaire et retour en arrière pour Android 16. Technologique. Mais avant de commencer, merci de nous écouter chaque semaine et merci pour vos messages. Si ce nouveau projet évolue, c'est aussi grâce à vous. Vous qui avez encore une fois fait des numériques le premier médiathèque de France, on vous remercie mille fois. Et on se retrouve désormais tous les vendredis pour l'update. C'est votre nouveau podcast à retrouver sur le site des numériques, mais également sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou encore Amazon. D'ailleurs, pensez à vous abonner, vous serez prévenu à chaque nouvel épisode. Le principe de l'émission, c'est simple, vulgariser l'actu tech de ces 7 derniers jours et faire le point sur les nouveautés technologiques de demain, qui pour le coup, sont celles d'hier. Allez, on rembobine.
Le replay.
Ça sent le roussi pour Tesla en Europe. Les chiffres de janvier sont tombés et c'est un sacré coup de frein. Près de 50% de ventes en moins par rapport à l'an dernier. En France, c'est encore plus violent, moins 63%. Et en Espagne, c'est carrément moins 75%. Du coup, qu'est-ce qui cloche ? Eh ben, certains pointent du doigt Elon Musk et son rapprochement avec Trump, qui a refroidi pas mal de monde, notamment en Suède. Mais est-ce que c'est vraiment la seule raison ? Eh ben, pas tout à fait. Déjà, le premier trimestre est toujours plus mou chez Tesla, qui écoule ses stocks en fin d'année histoire de gonfler ses chiffres. Ensuite, il y a un nouvel éléphant dans la pièce, ce sont les marques chinoises. Avec des voitures moins chères, bien équipées et un soutien massif du gouvernement chinois, elles envahissent de plus en plus le marché européen. Alors Renault qui cartonne avec sa R5 ne reste pas les bras croisés, tout comme Volkswagen et Peugeot. Avec un avantage sur Tesla, c'est la qualité du service client. Bref, Tesla reste un acteur majeur, mais entre image écornée, concurrence féroce et ajustement interne, la route risque d'être un peu plus longue cette année pour le constructeur. Le Pixel 6a de Google a fait son petit bonhomme de chemin depuis sa sortie en 2022. Et là, il revient sur le devant de la scène, mais pour une raison beaucoup moins glorieuse. Certains utilisateurs ont découvert que leur écran se décollait tout seul. Et non, c'est pas Google qui s'est lancé dans les smartphones réparables, c'est tout simplement que leur batterie a gonflé. Un défaut esthétique potentiellement dangereux, puisque la batterie peut libérer des produits toxiques, provoquer un incendie, ou même dans le pire des cas, carrément exploser. Et on a déjà vu ça chez la concurrence. Alors oui, ça fait un petit peu beaucoup pour un smartphone. Le plus inquiétant dans l'histoire, c'est que certains utilisateurs prennent ça à la légère. L'un d'eux a même tenté de remettre l'écran en place avec des élastiques. Là, je vous le dis, mauvaise idée, c'est comme essayer de colmater une fuite de gaz avec du scotch. Donc que faire si ça vous arrive ? Eh bien première chose, on arrête immédiatement d'utiliser et de charger le téléphone. Deuxième chose, on n'essaye pas de bricoler soi-même la batterie. Et troisième chose, on contacte Google ou un réparateur pour un remplacement. D'ailleurs, bonne nouvelle, la marque a déjà pris en charge certains cas en remplaçant directement l'appareil. Bref, si votre Pixel 6 a commencé à gonfler, il est peut-être temps de lui dire adieu avant qu'il vous fasse un coup d'éclat. Au sens propre là pour le coup. Souvenez-vous, la semaine dernière, on parlait de la chronologie des médias et plus particulièrement du cas Disney+. Au lieu d'attendre 17 mois pour voir un film Disney après sa sortie en salle, 9 mois suffiront désormais. Une bonne nouvelle, enfin pas pour tout le monde. Chez Canal+, c'est plutôt la soupe à la grimace. Maxime Saada, le grand patron de la chaîne cryptée, a carrément menacé de couper le robinet du financement du cinéma français. Et selon lui, Disney a bénéficié d'un deal beaucoup trop avantageux. Alors, petit rappel des chiffres, Disney+ s'est engagé à investir 115 millions d'euros sur 3 ans dans la production française, soit environ 38 millions par an. Canal+, de son côté, débourse 220 millions d'euros par an pour avoir une chronologie des médias plus courte, 6 mois. Alors résultat, Saada trouve ça injuste et demande que le montant investi soit proportionnel à la place obtenue dans la chronologie. Et comme un deal en cache souvent un autre, Netflix et Prime Video pourraient aussi revoir leur position dans cette chronologie des médias. Bref, tout est en train de bouger et Canal+ a du plomb dans l'aile. Alors une chose est sûre, les négociations ne font que commencer et les tensions risquent encore de monter d'un cran. Oh, ça se suit comme une série télé, j'adore. Justement, faisons un point sur l'actu streaming. Pendant que certaines plateformes se battent à coups de chronologie des médias, Netflix, lui, trace sa route et affiche une forme olympique. La plateforme vient d'ailleurs de dévoiler son programme pour 2025, et ça donne le tournis. Au menu cette année, accrochez-vous, Black Mirror saison 7, The Witcher saison 4, Stranger Things saison 5. Et ils ont encore trouvé le moyen de traumatiser ces pauvres gosses. Mercredi saison 2, mais le gros morceau, c'est Squid Game saison 3, fin de partie, le grand final arrive le 27 juin 2025. Netflix a lâché un premier visuel vraiment glauque, un garde en rose traînant un candidat ensanglanté vers un cercueil bien emballé avec un joli ruban. Tout un programme. Et c'est pas tout. You saison 5 débarque le 24 avril, Cobra Kai saison 6 partie 3 est prévue pour le 13 février, dans quelques jours. Et côté production française, on attend avec impatience Astérix le combat des chefs, la série animée d'Alain Chabat, et ça a l'air aussi bon que Mission Cléopâtre. Balle perdue 3 pour augmenter le quota de baffes et de course-poursuite. Et l'autre bonne nouvelle, pas d'augmentation de prix prévue en France. En tout cas pour le moment. Et toutes ces annonces seraient un bon moyen de faire passer la pilule en douceur. Donc on reste prudent. Deux séries qui ont marqué toute une génération s'apprêtent à sortir du placard et honnêtement, on ne sait pas encore trop quoi en penser à la rédac. Il y a Bref qui revient avec une première trahison, le format, qui n'a plus rien de bref du tout. Si en 2011, Kian Kojandi nous racontait le quotidien d'un trentenaire en 2 minutes par épisode, son retour annoncé pour le 14 février sur Disney+, passe en mode version longue. 6 épisodes de 30 minutes où le perso principal est en pleine crise de la quarantaine. Et le temps passe vite finalement. Autre comeback, c'est Buffy contre les vampires, et oui, l'époque de la trilogie du samedi pour les vieux. Un épisode pilote a été commandé aux États-Unis histoire de tester si la hype est toujours là. L'histoire suivrait une nouvelle tueuse de vampires, hein, parce que oui, il faut bien passer le flambeau. Mais une chose est sûre, si ça marche, attendez-vous à voir débarquer cette nouvelle Buffy chez nous. Alors, bonne idée ou énième tentative de surfer sur la nostalgie, ce qui est sûr, c'est que ça nous ramène tout droit aux années 2000 et qu'on commence sérieusement à sentir le poids des années. Le site des numériques, c'est aussi bien des news que des tests, et parmi les bangers de la semaine, on retrouve la série Galaxy S25. Les 3 nouveaux smartphones de Samsung dont on parlait la semaine dernière repartent avec 5 étoiles sur le site. Alors à moins d'avoir craqué pour les S24 l'année dernière, c'est vraiment une bonne surprise, notamment avec une intégration plus poussée des fonctions d'IA et la puce Snapdragon 8 Elite qui cumule puissance et économie d'énergie. De son côté, la LG 55V4 ne réinvente pas la roue, mais coche toutes les cases d'un bon téléviseur OLED sans exploser le budget. Seule concession, un pic de luminosité en HDR un peu limité, mais bon, à ce prix-là, c'est un compromis plutôt raisonnable. 4 étoiles sur le site. Pour finir, les écouteurs Technics EAH AZ100 repartent avec 5 étoiles également. C'est un peu la version améliorée des AZ80, un son plus naturel, une meilleure connectivité et un design plus discret. Les gros défauts des anciens modèles ont été corrigés, mais seul petit hic, la réduction du bruit dans les aigus n'est pas encore au niveau des meilleurs du marché. N'hésitez pas à aller checker nos tests complets sur le site des numériques. Allez, on fait une pause.
Le break.
Le Vision Pro d'Apple fête son premier anniversaire et cette première année a été, disons, mitigée. Allez, soyons honnêtes, c'est pas vraiment le raz-de-marée qu'Apple espérait. Pourtant, souvenez-vous, à sa sortie, c'était la révolution. Hein, l'ordinateur spatial, le futur du computing, l'écran ultime et peut-être même la prochaine étape de l'évolution humaine. Bon, visiblement, on s'est peut-être tous un peu emballés. Le bilan est simple, Apple a su impressionner techniquement, une qualité d'image incroyable, une interface ultra travaillée, un écosystème bien huilé. Mais à quel prix? Eh bien, 4000 balles, mes amis. D'ailleurs, pour un casque qui reste encombrant, qui peine à trouver des usages concrets au quotidien, qui donne un peu trop l'impression d'être coincé dans une version cheap du film Ready Player One, ça fait beaucoup. Les applis ne se bousculent pas, et à part quelques passionnés ou développeurs, le grand public, lui, n'a pas l'air convaincu. Apple, bien sûr, n'avouera jamais un semi-échec, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle de ventes bien en dessous des attentes initiales et la marque commence déjà à revoir sa copie pour un Vision Pro 2 ou peut-être un Vision Lite. Bref, après un an, une conclusion s'impose. Oui, c'est une prouesse technologique, mais non, c'est pas encore un produit grand public.
Voici l'Apple Vision Pro. L'ère de l'informatique spatiale commence maintenant.
Par contre, attention, Apple n'est pas le seul dans cette galère. La réalité mixte, tout le monde veut y croire. Ou en tout cas, tout le monde veut un petit bout du gâteau au cas où ça finirait par marcher. Samsung, par exemple, a profité de son dernier Galaxy Unpacked pour évoquer son propre casque. Un produit qui tournera sous Android XR, le système d'exploitation que Google développe pour la réalité étendue. À l'intérieur, un mix de réalité augmentée et de réalité virtuelle, des applications Google natives comme Maps et YouTube, et bien sûr une intégration poussée de l'IA pour piloter tout ça à la voix. Le problème, c'est que Samsung n'a rien montré de concret. Juste une vague promesse et une sortie estimée fin 2025. En gros, ça ressemble beaucoup à du « regardez, nous aussi on bosse sur un truc », mais sans vraiment s'engager. De son côté, Meta est beaucoup plus pragmatique. Mark Zuckerberg a déjà admis que le format casque était peut-être une impasse et qu'avant de convaincre les foules, il fallait rendre la technologie discrète, abordable et naturelle. Résultat, d'un côté, le Quest 3S, une version plus accessible de son casque VR, et surtout les Meta Orion, un projet de vraies lunettes de réalité augmentée, pas juste des lunettes connectées comme les Ray-Ban Meta, mais un produit capable d'afficher des informations en direct grâce à des projecteurs micro-LED intégrés. Ajoutez à ça une bonne dose d'IA générative, un bracelet pour le contrôle gestuel et un boîtier sans fil, et on obtient la vision de Meta sur l'avenir de la réalité mixte. Sauf que pour l'instant, c'est qu'un prototype et Meta préfère prendre son temps.
The next generation of smart glasses by Ray-Ban and Meta.
Alors où en est-on vraiment avec cette technologie? Est-ce que quelqu'un, quelque part, a vraiment envie de porter un casque sur la tête toute la journée? On voit comment ça s'est terminé avec les Daft Punk et franchement ça donne pas envie. Aujourd'hui, la réalité mixte reste un marché de niche, un outil puissant pour les pros, les designers, les ingénieurs, les chirurgiens, un gadget fascinant pour les fans de tech, mais pas encore un produit du quotidien. Trop cher, trop encombrant, trop abstrait. Pour convaincre, il faudrait un produit aussi simple et naturel qu'un smartphone. Et aujourd'hui, qu'on parle du Vision Pro, du MetaQuest ou du futur casque de Samsung, on en est loin. Et ce n'est pas les Hi-Pin ou le Rabbit-R1 qui me contrediront. Alors, deux possibilités. Soit la technologie évolue assez vite pour devenir réellement grand public, soit on assiste à une redescente brutale des ambitions façon Google Glass. Allez, on avance.
La preview.
GTA 6, c'est LE jeu vidéo que tout le monde attend et qui va s'écouler à des millions d'exemplaires. Les créateurs pourraient d'ailleurs profiter de cette hype et jouer un gros coup stratégique, lancer GTA 6 Online comme un jeu totalement indépendant. Alors pourquoi ce choix ? Si vous avez déjà traîné sur GTA Online, vous savez que c'est un poids lourd. Depuis 2013, l'éditeur Rockstar a su transformer un mode bonus en empire financier grâce aux mises à jour, aux événements et puis aux micro-transactions qui font chauffer la carte bleue. Avec GTA 6, l'idée serait donc de laisser les joueurs choisir. Ceux qui veulent uniquement l'expérience solo ne payent que pour ça, et ceux qui veulent se balader en mode multijoueur, monter leur empire criminel et se faire braquer par des ados de 14 ans, prennent juste GTA 6 Online. Financièrement, c'est du génie. Un mode online moins cher, accessible au plus grand nombre, truffé d'achats intégrés, et pour ceux qui voudront passer au solo plus tard, hop, un petit supplément à débourser. Si on n'a toujours pas de date officielle, tout pointe vers une sortie fin 2025, début 2026. D'ici là, faites la bise à vos proches, ils seront bientôt sur messagerie. Chez Google, on aime bien changer pour changer. Et cette fois, c'est le panneau des réglages rapides qui passe sur le billard avec Android 16. Si vous avez connu l'interface avant 2018, vous vous souvenez peut-être qu'un simple appui sur l'icône Wi-Fi ou Bluetooth affichait directement la liste des réseaux et appareils dispo. Et bien depuis Android 9, Google a décidé qu'un écran intermédiaire était une bonne idée. Alors que franchement, spoiler alerte, vraiment pas. Eh bien bonne nouvelle, Android 16 pourrait bien revenir en arrière. Pour l'instant, c'est en phase de test et les premières versions souffrent de quelques bugs, mais ça sent le grand ménage chez Google. Reste à voir si ces changements seront validés pour la version finale ou si on les retrouvera uniquement dans les souvenirs des bêta-testeurs frustrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que vous êtes prêts pour le week-end ou pour crâner à la machine à café. Histoire d'en savoir plus sur les différents sujets de l'émission, je vous mets tous les articles en lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre mise à jour. Allez, ciao.
Retrouvez l'émission ainsi que tous les podcasts des Numériques sur notre site lesnumériques.com et vos plateformes de streaming préférées.